Depuis notre naissance, nous avons franchi des étapes dans un processus que l'on appelle l'attachement, et tout cela s'est fait naturellement, entre guillemets. Une manière de dire que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons vécu. Nous avons appris à force d'intuition, de relations, de personnes gravitant autour de nous et en relation avec nous, nous avons appris à définir l'attachement. Évidemment, cette définition de l'attachement intégrée en chacun de nous diffère d'une personne à l'autre et quelle que soit notre manière d'entrevoir l'attachement, elle a un impact direct sur notre manière de vivre nos relations avec nos copains, nos copines, nos parents, nos patrons, nos conjoints, nos enfants et toute personne en relation actuelle ou future avec nous. Avec mon invité Leslie Agasson, prenons le temps de regarder un peu plus près ce qui se joue dans cette manière de vivre notre attachement, nos attachements et peut-être nos détachements. Bonjour Leslie. Leslie Agasson.
Bonjour Pascal.
Leslie Agasson est passionnée par son métier et tu m'as dit que tu te formais en permanence, près d'une formation par mois, si je me souviens bien, formation sur le handicap, formation sur la relation non-verbale, enfin en tout cas une pratique aussi de la relation non-verbale que tu utilises dans ta profession, formation en addictologie avec des résultats très intéressants dans l'accompagnement de certaines personnes et surtout un angle d'approche que je partage vraiment à fond, et puis formation sur le style d'attachement, ce qui est le sujet d'aujourd'hui dans la lignée de l'enseignement de Donald Winnicott, dont on parlera évidemment, qui est pédiatre et psychanalyste britannique, qui a vécu dans les années 70. Alors Leslie, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation ?
Non.
Ah, je me donne une bonne note alors.
Voilà, je suis dans la région de Franche-Comté.
Oui, du côté de Besançon, c'est ça ?
Voilà.
D'accord. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cet espace dans lequel le but est de vivre notre vie en mieux. Donc, venons-en directement à l'attachement. Oui. Je l'ai un petit peu introduit, mais veux-tu le définir, qu'on cerne vraiment de quoi il est question ?
Voilà, alors tout simplement, l'attachement, donc on est dans les premiers mois du bébé, hein, de la construction individuelle du bébé, donc c'est l'attachement envers une personne, la dimension du lien affectif, d'un bébé avec la personne qui va s'occuper de lui. Souvent, on parle de la mère ou du substitut maternel au départ, puisque c'est beaucoup la mère qui va s'en occuper. Bien sûr, le père aussi. Mais c'est une figure qui va être source de réconfort et de sécurité parce que, donc, on va dire que la figure d'attachement, c'est la personne vers laquelle le bébé va rechercher la proximité du lien lorsqu'il est en situation de détresse ou d'alarme, lorsqu'il a besoin de quelque chose. Et donc, il est programmé biologiquement pour rechercher justement cette proximité d'une personne adulte autour de lui.
Donc évidemment, au départ, c'est avec ses parents, mais ça peut être aussi avec d'autres adultes que ses parents ?
Eh bien, par exemple, on pourrait se poser deux questions qui sont soulevées par Nicole Guédonnet, qui a beaucoup écrit aussi autour de l'attachement. C'est, par exemple, vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle, un événement difficile, ça ne va pas bien. Et à qui parmi vos proches avez-vous envie de vous confier ? On a en général une ou deux figures d'attachement, une ou deux personnes vers qui on a envie d'aller pour se confier. Deuxième question, si on a un après-midi de libre et on a envie de faire quelque chose d'agréable avec des gens qu'on aime bien, à qui on pense ? Et donc, certaines sont dans les deux groupes et d'autres personnes ne sont pas dans les deux groupes parce qu'on ne va pas rechercher les mêmes attentions.
Donc, tu es en train de dire que les personnes qui naturellement nous viennent à l'esprit quand on est en situation de détresse, où on ne se sent pas bien, etc., ou bien en situation, on va dire, quasi neutre et on a envie de prendre un bon temps, du plaisir, etc., sont des personnes qui ressemblent à des figures d'attachement pour nous ?
Voilà.
D'accord.
Alors parfois, comme je le disais, certaines vont être dans les deux groupes. Donc ce sont vraiment des références pour nous.
D'accord. Tu peux juste rappeler les deux groupes.
Donc le premier groupe, c'est vraiment en cas de détresse ou d'alarme ou d'insécurité vers qui on a envie de se tourner.
Ouais.
Et puis des situations au contraire plus agréables avec qui on a envie de partager un bon moment.
D'accord.
Bon. Mais c'est pour voilà, distinguer un petit peu cette notion d'attachement qui est vraiment liée au fait de se rapprocher vers une personne quand on est en situation de détresse, d'insécurité. Mmh. Alors, tout simplement, c'est vrai que tu as nommé Winnicott, qui est donc un pédiatre psychanalyste anglais, qui lui a travaillé sur cette notion, mais après. Et mais le premier, c'est John Bowlby, qui est psychiatre et psychanalyste anglais aussi, et qui s'est inspiré de travaux différents, de Spitz, Lorenz, qui observait les animaux. Donc il y a, voilà, il y a différentes observations. Et lui, il a théorisé le concept d'attachement en 1969, donc Bowlby, avec l'aide du contexte de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il avait... Il s'est intéressé, pardon, au lien mère-enfant et aux conséquences donc des séparations précoces, voilà, qui mettaient en évidence en fait des états dépressifs chez les nourrissons qui étaient isolés, qui étaient séparés de leur mère. Ouais. Et donc c'est un besoin primaire et inné, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, qui est le but de rechercher une continuité avec une personne désignée. Et c'est pour ça qu'on appelle figure d'attachement ou caregiver en anglais. Mmh, mmh. Et donc, la présence de cette personne, eh ben, elle permet simplement d'être en sécurité, en confiance. Et donc, ça va entraîner en fait, le fait que quand on est en confiance et en sécurité, après, ben, on peut explorer le monde, l'environnement, on peut développer nos capacités. Si on est dans une insécurité, ça peut bloquer les processus d'apprentissage, les processus d'exploration et d'adaptation. C'est pour ça que cette notion, elle est très importante. Alors, ça, c'est construit dans les 9 premiers mois, mmh. mais ça va quelque part définir un peu le reste de notre vie, c'est-à-dire définir les autres liens que nous aurons tout au long de notre vie.
Ce qui est assez étrange et en même temps perturbant, c'est que on a dans les 9 premiers mois de notre vie une manière de créer un attachement qui ne dépend pas d'un raisonnement conscient, et ça va déterminer la suite de la vie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est après coincé, prédéterminé dans une direction et qu'il n'est pas possible d'en bouger ? Peut-être, peut-être même. Alors, si on reviendra peut-être sur ce sujet peut-être plus tard, mais...
Ah. Non, ben c'est peut-être vers la fin qu'on pourra parler de résilience aussi, parce d'accord. que heureusement non, c'est pas parce qu'on a vécu des éléments perturbateurs ou de l'insécurité au tout début de la vie que ça détermine tout le reste.
Bon, bonne
nouvelle. Parce que justement, tu l'as souligné au tout début de ta présentation, tout au long de notre vie, on rencontre des personnes et qui peuvent devenir aussi d'autres figures d'attachement. Alors ça n'aura pas le même impact peut-être que voilà au tout début de la vie, mais il peut y avoir des tuteurs de résilience, comme le dit Boris Cyrulnik. Oui. Donc voilà, des personnes sur qui on pourra s'appuyer pour construire des relations plus saines, peut-être plus sécurisantes.
D'accord. Donc finalement, l'apprentissage de l'attachement, on pourrait le dire que même s'il a des fondements premiers dans les premiers mois de la vie, eh bien, on va continuer à être dans une école d'apprentissage, d'attachement au fil de sa vie. Et plus encore, si on en prend conscience et que peut-être avec des outils qu'on évoquera aujourd'hui, on décide de mettre en mouvement quelque chose qui va permettre de maturer une capacité à créer un attachement plus sain, plus équilibré, plus sécure, etc.
Voilà, d'accord. Tout à fait. Et vraiment, je dirais qu'il faut s'imaginer, voilà, le bébé qui arrive, qui bah, ressent plein de choses, comme tu l'as dit, c'est pas conscientisé, c'est pas conscient, mais il ressent, il a des émotions, il a des ressentis sensoriels, des perceptions, et c'est vraiment l'adulte référent qui va finalement, lui présenter le monde, lui présenter aussi son système émotionnel, hein, qui, quand on est devant un bébé qui pleure, qui gigote un peu, ben on verbalise, on dit ben alors tu as quoi, tu as faim, tu as, ben on va lui présenter un petit peu notre interprétation de ce qu'il nous présente. Mmh. Et donc Winnicott, donc c'est lui qui a beaucoup parlé donc de deux manières de finalement de présenter l'enfant au monde, c'est de le porter, donc il parlait de holding et de handling, c'est-à-dire on va le porter donc dans les bras, on va vraiment l'accueillir et en même temps aussi le toucher, donc lui donner des limites corporelles. Donc la manière dont on va être porté, choyé, regardé, tout ça va créer un lien avec, l'adulte, les adultes qui s'occupent de nous. Et finalement, à travers leur manière de nous prendre en soin, on va se construire notre presque identité, notre sentiment d'existence, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, la sécurité psychologique, au-delà de la sécurité déjà matérielle, parce que ça, c'est important aussi, les besoins primaires de manger, boire, dormir, ça aussi, ça va générer aussi un sentiment ou pas de sécurité ou d'insécurité. Si on a tout ce qu'il faut au niveau biologique, et la sécurité psychologique, elle va être autour de l'amour inconditionnel qui va nous être porté, d'un environnement stable, c'est-à-dire que les parents, quand je pleure, ils vont venir le plus rapidement possible, il y a quand même quelque chose qui va être régulier. Oui. Et tout ce qui est instable va générer des désordres chez les tout-petits et puis après. Oui. Donc la stabilité de l'environnement, des relations aussi. Et là, je vais parler justement des différents types d'attachement.
Oui, très bien, tu anticipes la question que je voulais te poser. Voilà. Alors, parle-nous-en.
Parce que donc, après Bowlby, il y a eu donc d'autres psychologues et psychanalystes, dont Ainsworth, qui est psychologue américaine, qui a travaillé avec Maine aussi, sur des styles d'attachement, donc des bases de sécurité, et donc qui qualifie les différentes qualités d'attachement. D'accord. Elle a inventé, donc Ainsworth, une expérience qui s'appelle la situation étrange. C'est simplement quand un bébé va être détaché de sa figure d'attachement, donc souvent la mère, qu'est-ce qui va se produire ? En fait, elle observe, en fait, par exemple, quand l'enfant est déposé à la crèche, ou voilà, comment se passe la séparation. Et à partir de ça, elle va définir plusieurs types d'attachements, et d'autres vont rajouter d'autres types d'attachements. Donc, elle en a défini trois, dont deux principaux. Donc, vraiment, pour retenir, le plus simple, c'est de se dire, on peut avoir un type d'attachement sécure ou insécure. Déjà deux types d'attachement, et dans les insécures, il y a plusieurs formes d'attachement. Donc, par exemple, ce qui va être une relation sécurisante, c'est que quand l'enfant va être séparé de sa mère, il va se manifester, forcément, et puis il va au contact de la mère à nouveau, donc au bout d'une séparation et qu'elle revienne, il va pouvoir se calmer assez, pas simplement, mais en tout cas, ça va être sécurisant pour lui, il va se sentir en confiance et il pourra après se détacher parce que la relation à la mère est plutôt bonne, parce que cette mère, elle réagit directement, elle se montre sensible, elle est plutôt stable. Donc ça va créer une relation sécurisante où l'enfant va pouvoir rester sans sa mère en étant assurée qu'elle va revenir, qu'elle va pouvoir la sécuriser par la suite.
D'accord. C'est en voyant le comportement de l'enfant que l'on va donc déterminer que la relation est considérée comme étant sécure. Le fait qu'il s'apaise.
Toutes les autres relations finalement aussi.
D'accord. Donc on est vraiment sur l'observation du comportement de l'enfant en relation avec la personne figure.
C'est du couple figure d'attachement et enfant, parce que autant l'enfant réagit aussi par rapport à ce que la mère va montrer. Okay. Donc par exemple, comme on a dit tout à l'heure, dès qu'un enfant pleure, dès qu'un enfant a besoin de quelque chose, au tout début de la vie, dans les premiers mois, il faut vraiment qu'il y ait une harmonisation, une harmonisation vers l'enfant, c'est-à-dire il faut répondre assez rapidement parce que au tout début, l'enfant est complètement dépendant, très dépendant. Et si par exemple cette maman se montre distante, elle réagit peu, elle rejette l'enfant, alors là, plus grand, réagit avec colère, il y a une réaction
d'angoisse
plutôt distante. Finalement, l'enfant va expérimenter le rejet, il va s'isoler émotionnellement, il va développer un peu le stress et la peur. Donc, ça va être une relation plutôt d'évitement, c'est-à-dire au début, il va peut-être se manifester, mais après, il va voir la réaction Et finalement, il va se dire, c'est pas la peine. Enfin, m'écrit, enfin, constamment.
Oui, n'ont pas d'impact.
Voilà,
finalement.
N'ont pas d'impact. Donc, il va être dans l'évitement pour ne pas trop se sentir rejeté. Donc là, c'est on va dire, le type d'attachement insécure, évitant.
D'accord.
Ce sont des personnes qui vont finalement éviter le lien parce que le lien fait peur, le lien entraîne le rejet, etc.
D'accord, donc ça peut expliquer peut-être juste avant de poursuivre que des personnes qui ont vécu cette relation insécure d'évitement, vont avoir dans un comportement adulte une difficulté à créer du lien aussi.
Tout à fait.
D'accord. Bon, alors on s'arrêtera peut-être un peu plus tard.
C'est très important de connaître un peu comment on a été, choyé, regardé, porté. Enfin, est-ce qu'on s'est senti en sécurité quand on était enfant ?
Quand on était enfant.
Alors, voilà, il y a différentes raisons aussi par rapport au comportement de la mère ou du substitut.
Bien sûr.
Parce que justement, il peut y avoir ce qu'on appelle. Alors, c'est Green qui a théorisé ça, le syndrome de la mère morte, c'est-à-dire c'est une maman qui est dépressive. Alors, il peut y avoir une psychopathologie, une dépression, pour X raisons, mais il peut y avoir aussi des événements de vie qui arrivent, un deuil, par exemple, une maman qui perd son propre père, par exemple, et puis qui donne naissance à son enfant, elle est déprimée. Et ça va jouer forcément sur la relation à l'enfant, parce que une mère déprimée, elle va être moins présente, elle peut faire tout ce qu'il faut au niveau des soins physiques, des soins, même peut-être avoir cette attitude de tendresse, mais comme elle est préoccupée et qu'elle vit un deuil. Il va y avoir quand même quelque chose qui va jouer dans la relation. Donc, on n'est pas en train de dire c'est la faute de.
Bien sûr.
La vie fait que parfois, les parents peuvent vivre des situations où sont eux-mêmes peut-être dans une pathologie qui fait qu'ils vont transmettre aussi un lien à l'autre qui est particulier.
Oui, j'insiste juste ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher la faute, on est en train de comprendre, chercher à comprendre.
Hein. Voilà.
Donc, ça, c'est quand même rien à voir.
Alors, en dehors du fait, je ne parle pas des problèmes d'abus et de maltraitance, qui là sont différents.
Ouais.
Hein, alors, il peut y avoir aussi une attitude d'une mère ou du substitut parental, une maman qui n'est pas cohérente dans ses réponses, donc qui peut, une fois elle va être indifférente, une fois elle va être très sensible à l'enfant, donc elle est très instable au niveau émotionnel, et donc finalement l'enfant il va éprouver du stress, il va pas se sentir en sécurité, il peut être contrarié, en colère, il peut se sentir abandonné émotionnellement, et puis finalement il va avoir des difficultés à contrôler son impulsivité, à gérer ses émotions. Et ça peut entraîner un comportement antisocial ou agressif, et là on parle d'un type d'attachement insécure ambivalent. Voilà, c'est ambivalent. Parfois c'est adapté, parfois c'est inadapté. Donc l'enfant, après, il ne sait plus.
Il n'arrive pas à situer. Comme sa mère était un peu assise entre deux chaises, ou la figure d'attachement était assise entre deux chaises, lui aussi est assis entre deux chaises dans sa gestion émotionnelle.
Voilà. Parce que finalement, l'attachement, c'est vraiment une base de sécurité qui va entraîner aussi. Des capacités d'adaptation sociale qui va entraîner des capacités aussi de gestion émotionnelle. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de sécurisant, forcément, ça va jouer sur la gestion des émotions, sur le fait de savoir un petit peu s'auto-calmer. Parce que plus la figure d'attachement est sécurisante, plus l'enfant va être capable, en fait, de lui-même aussi s'apaiser, parce qu'il y a une sécurité. Et aussi, finalement, il va pouvoir explorer, il va pouvoir être dans l'ouverture. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, c'est Winnicott qui disait ça, que je trouvais ça très, très juste, et qu'il faut avoir été deux pour être un. C'est-à-dire, si on n'a pas été attaché d'une manière... adapté à une personne, donc on a été deux, un duo qu'on parle de symbiose hein, au départ, voilà, eh ben, on aura beaucoup de difficultés à être une personne à part entière, à être un,
d'accord.
à pouvoir se différencier, à pouvoir voilà, être une personne, avoir une identité stable et sûre.
D'accord.
Et d'ailleurs, il dit aussi Winnicott que le but de l'attachement, c'est le détachement. C'est-à-dire, plus on a été bien attaché, plus on pourra se détacher et vivre sa propre vie. Voilà.
D'accord. Donc, quelque part, en tant que parent, ça veut dire que si j'ai une tendance à être en refus de détachement de mon enfant, que je veux l'accaparer pour moi, en faire presque ma chose, câlin, etc., et que j'ai peur qu'il aille vers l'extérieur, je peux finalement l'abîmer en aptitude au détachement à venir.
Alors oui, c'est dit d'une manière... Oui, simplement, dans le sens que c'est pas forcément conscient d'ailleurs, hein, les parents, voilà, ils ont leur propre histoire aussi,
tout
pourquoi ils vont être d'une manière ou d'une autre, mais c'est-à-dire que plus on va être dans une relation sécure et au départ justement il y a un attachement fort, il y a une symbiose hein, entre mère-enfant, le père aussi à sa place et tout ça, donc c'est vraiment être le plus adapté à l'enfant au début, hein.
Oui.
C'est vraiment répondre au début, voilà, l'enfant pleure, on est là, et petit à petit, on a de l'espace un petit peu, on peut verbaliser que ben, maman, elle a autre chose pendant ce temps, attend un petit peu, et là, l'enfant, il comprend que même si la mère ne vient pas tout de suite, ben, mais elle va venir quand même.
Oui, je veux dire,
c'est sécurisant parce que, bon, j'ai expérimenté que maman, elle ne vient pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, j'ai quand même la réponse, et une réponse qui est plutôt adaptée. Et après... finalement, parce qu'on est sécure, on va explorer. C'est vraiment ça, cette notion que, imaginez qu'un enfant doit traiter ses émotions. C'est comme s'il était tout seul, finalement. Si le parent ne l'aide pas à gérer un peu ce qu'il est en train de vivre, il va devoir être en mode survie un peu. C'est un peu comme s'il était un peu laissé à
livrer à lui-même.
Ou soit trop envahi par l'autre. Et justement, ça va donner ce troisième type de relation insécure, c'est la relation désorganisée, donc où on a un parent qui est plutôt excessif, qui va réagir de manière très imprévisible, qui peut faire peur, un parent qui peut souffrir d'addiction, par exemple alcoolique, un parent qui va être vraiment dans peut-être une forme de pathologie, l'enfant va ressentir une grande confusion. Il va éprouver de la peur, parfois de la tristesse, rechercher la sécurité chez des inconnus, parfois. Voilà, ça va peut-être l'amener à être dans une forme de danger. Et il y a une faible estime de lui-même, il éprouve beaucoup de colère et il peut être très passif. Donc voilà, on a les trois types de relations insécures, c'est évitant, ambivalent ou désorganisé.
D'accord. Est-ce que il y a pas une cloison hermétique dans ces formes d'attachement qui soient sécures, insécures, évitant, insécures, ambivalent, désorganisé? Est-ce qu'il n'y a pas parfois une navigation, un flirt avec certains de ces univers sans pour autant que ce soit entre guillemets problématique ou dommageable?
Alors c'est vrai que bon, de manière générale, on parle de pathologie quand il y a une seule chose qui est utilisé, c'est-à-dire une défense ou une forme de relation et que ce n'est pas assez souple. Bien sûr qu'il peut y avoir un enchevêtrement de différentes formes, mais quand même, on saura quelle est la tendance par rapport aussi aux relations qu'on aura par la suite. Parce que, comme on l'a souligné, ça nous accompagne tout au long de la vie.
D'accord. Parce que je pourrais avoir, parce que je pourrais avoir des parents accessibles, disponibles, sensibles, répondants, prévisibles, et de temps en temps qui m'envoient bouler parce qu'ils pètent un câble, qu'ils en ont ras le bol, et puis ils redeviennent disponibles, sensibles, répondants, et puis de temps en temps ils me laissent un peu pester dans mon coin. Tu vois, c'est cette navigation là. Elle est quand même dans la réalité du quotidien, donc on n'est pas dans une relation avec des parents qui sont sécures en quasi-permanence ou bien ambivalents en quasi-permanence,
oui,
ou évitants, bref.
Alors vraiment, il ne faut pas comprendre cela comme quelque chose, comment dire,
des compartiments,
d'immuable. En oui. fait, on parle vraiment des tout premiers mois de la vie, mais quand même d'une... Le parent, c'est sa... son tempérament, sa personnalité qui va transparaître. Donc, il y a quand même des éléments qui restent.
Mmh, une tendance forte.
On ne parle pas de moments où bah, le parent, bah, il est fatigué, il peut être en colère et puis bah, voilà, il va exprimer son mécontentement. On parle vraiment de la manière dont le parent est dans la relation à l'autre.
Ah, d'accord, donc ça n'a rien à voir. On est vraiment dans un fonctionnement,
pas,
une tendance. C'est comme
voilà,
si on disait qu'on a une autoroute, enfin je vais prendre oui. insécure, ambivalent, voilà. On a une autoroute où on est insécure, ambivalent. Et puis de temps en temps, on prend des petites départementales de sécure. Et ben, il n'empêche qu'on va être dans un fonctionnement principal de l'insécure ambivalent qui va générer les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure.
Voilà, si, c'est vraiment le fonctionnement, justement, tu l'as nommé, le fonctionnement du parent va être plutôt de telle ou telle forme, ouais. on va dire, et va entraîner des réponses répétitives, c'est-à-dire que c'est le style ouais. d'attachement, ouais. on va dire, le style de lien, le mode d'être ouais. en général.
Ouais, j'ai bien compris. Très bien. Merci en tout cas. C'est important de le clarifier, je pense, parce que je vois
oui,
pas que certaines personnes qui se disent « purée, j'ai pété le plomb », ben voilà, je suis
non.
un parent insécure ou bien avec mon conjoint ou mon collègue, j'ai pas répondu à 3 sollicitations, donc je suis dans l'évitement. Enfin, ben, donc
c'est quand même... Forcément, on a des moments comme ça et on est dans des moments. C'est
ouais,
pas,
c'est ça.
C'est pas installé sur un fonctionnement.
Merci pour la précision.
Qui est important. Ce modèle, en fait, va être quand même intéressant pour nous adultes ou même l'adolescence, hein, parce que justement la rencontre avec l'autre, qu'on soit professionnel ou dans notre quotidien, on va être justement influencé par notre style d'attachement.
Mmh.
En dehors des premiers temps de la vie de l'enfant, si dans notre... vie, on a un événement traumatique, on peut aussi basculer dans un autre style de lien parce qu'on a un événement traumatique qui vient bouleverser notre lien à l'autre parce
oui.
qu'un autre nous a agressé. Hein.
Oui.
Donc, il y a aussi...
Surtout s'il y a une résonance avec des histoires personnelles.
En plus, mmh. oui, c'est sûr. Mais ça peut entraîner, comme on disait tout à l'heure, des personnes, par exemple, qui vont être dans l'autosuffisance, donc refus de toute dépendance, parce que bah, ils étaient dans une relation d'évitement, voilà, entre le lien entre parents-enfants, et donc il y a une absence un peu de réaction à la séparation. Donc c'est des personnes qui finalement, voilà, sont. C'est comme si ça glisse sur
oui,
ces personnes.
Ouais, ils semblent insensibles à certaines situations.
Voilà, et puis ils n'ont pas confiance en ce que la relation peut durer, quelque part.
Alors pour une personne dans ce profil-là, parce qu'on pourrait dire que c'est peut-être un mode de fonctionnement. Alors, si on part sur le principe qu'on a dit, voilà, comme l'image de l'autoroute, c'est vraiment un mode de fonctionnement, c'est un enracinement, c'est un principe de vie que d'être finalement insensible, comme on l'évoque, à certaines situations. Comment je peux prendre conscience du fait que c'est un mode de fonctionnement, si je suis comme ça, et pas que ça m'arrive de temps en temps?
Alors déjà, quand on parle d'un mode de fonctionnement, ça veut dire que c'est répété. C'est répétitif et que dans plusieurs relations, je réagis de la même manière.
Mais le travers du répétitif, c'est que justement, c'est tellement répétitif que c'est habituel, donc je ne le vois plus.
Mmh.
Donc comment en prendre conscience, comment regarder mon environnement, mes relations, pour me dire, tiens, oui, je suis habitué à ça depuis 30 ans, depuis 20 ans,
oui.
mais finalement, c'est un dysfonctionnement. Serait-il bien que je fonctionne autrement ?
Après, c'est toute la question de la souffrance, parce que justement, ce qui va amener quelqu'un à prendre conscience et à vouloir changer ou à vouloir évoluer, c'est que ça fait souffrir.
D'accord.
C'est que ça fait souffrir soi ou ça fait souffrir les autres. Par exemple, quelqu'un qui ne se rend pas du tout compte, mais que voilà, qui a quand même des personnes autour de lui qui lui renvoient plusieurs fois, ben que... C'est difficile pour ces personnes,
ouais.
voilà, pour elles. Et donc, c'est soit on se rend compte soi-même qu'on souffre parce que, ben, on répète des relations insatisfaisantes, ou soit les autres aussi peuvent nous faire prendre conscience de ça si on veut bien être un peu humble et entendre aussi ce que vit l'autre.
Ouais, ouais, c'est ça, d'accord. Merci. En tout cas, le signal de la souffrance. Mais... Oui, j'entends que c'est pas simple, mais le signal de la souffrance que je perçois en me disant finalement, je me rends compte que ça me fait de la peine, ou bien la souffrance que je vois autour de moi peut être un bon signal pour me dire peut-être que j'ai besoin de travailler autrement. Je pense à un homme que j'ai eu en accompagnement qui avait 50 ans et qui me disait qu'en fait, il n'arrivait pas à s'installer dans une relation amoureuse durable. Et qu'il se rendait compte qu'il avait besoin d'avoir des filles qui avaient un écart d'âge de 20 ans avec lui, et que dès qu'il voyait que la relation commençait à s'installer, c'est-à-dire qu'on passait du sentiment amoureux à l'amour, il avait besoin de changer de relation. Donc là, on est dans quelque chose qui ressemble à ce que tu es en train d'évoquer là. Parce qu'en fait, il était conscient de sa souffrance.
On sent l'évitement.
Oui, on sent l'évitement.
Il y a un moment donné où, justement, ça pourrait marcher et on fuit.
Oui.
Donc, il y a quand même l'idée qu'il y a une peur derrière. On sent qu'il y a un risque qui est à éviter. Et souvent, moi aussi, j'accompagne une personne justement qui est dans une relation aux autres en général. Ce n'est pas qu'amoureuse. Finalement, ça aussi, ça peut être un indicateur. Mmh. Ça peut être uniquement les relations sentimentales. Avec les relations sentimentales, qu'on a une difficulté qui se répète. Mais aussi, ça peut être vraiment... très, très élargi avec toute relation amicale, professionnelle, sociale. Et c'est, par exemple, quelqu'un que j'accompagne qui... alors lui, c'est parce qu'il a peur de sa propre violence, alors parce qu'il a subi des violences. Alors il est dans une forme où il va créer du lien, mais dès que le lien est trop fort, il y a le risque... de la violence subie, mais qu'il pense pouvoir agir parfois parce qu'il peut passer à l'acte. Donc il va être dans l'évitement, il va rompre le lien, il va partir physiquement pour revenir. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un mouvement pour abaisser finalement
le niveau de risque
et le niveau de risque et pour revenir à presque comme si finalement on n'avance pas trop parce que quand on revient, on se sépare, on revient. Eh ben, y a quelque chose qui n'est plus d'une continuité, on va dire. Ça permet justement de repartir toujours et de ne jamais accomplir quelque chose d'aboutir finalement.
D'accord. Ouais. Et quand on prend conscience de ces manières, de ces modes d'attachement, est-ce que... En tant qu'adulte, comment on peut justement essayer d'aller chercher d'autres figures d'attachement pour compléter ou contrebalancer les déviances liées à nos figures d'attachement? Si par exemple j'étais insécure ambivalent, de me dire, ou insécure évitant, de me dire, comment je vais identifier les figures d'attachement adulte? Parce qu'il y a une part intuitive où je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas me dire, je fais un speed dating pour repérer ceux qui sont sécures et qui vont pouvoir compléter. Comment ça se joue finalement dans le monde de l'adulte?
Alors, déjà, c'est complètement aléatoire puisque c'est les rencontres qu'on va avoir dans notre parcours de vie, dans nos études, dans le travail, dans la vie. On a souvent tendance à répéter le même modèle.
Oui.
C'est soit on va être collé à ce qu'on a vécu, soit on va,
par exemple, l'opposé.
On a eu un père alcoolique, on va dire jamais je boirai, on va être dans la réaction complètement opposée, ou au contraire, même ceux qui se disent jamais, ils rentrent quand même, parfois ça arrive souvent de tomber sur un conjoint qui est alcoolique ou comme par hasard mais il n'y a pas de hasard, c'est sûr. Alors c'est vrai que psychiquement en fait on a peur de la nouveauté, de l'inconnu en général, donc on va répéter ce qu'on connaît parce que c'est même si c'est insécurisant,
c'est rassurant,
c'est sécurisant, c'est parce que on le connaît,
c'est le paradoxe. En fait, finalement
c'est assez paradoxal et ambivalent justement. C'est que on va répéter quelque chose qui nous fait souffrir, mais au moins on sait à quoi s'attendre. En fait, c'est un peu c'est ça un peu qui va être pathologique. Oui. C'est que on voilà
sans forcément être une maladie. Mais ça veut dire que finalement,
non,
on pourrait
sans,
se dire si on
ça
va
fait
dans
souffrir,
le... c'est
ça, ça peut faire
si on va donc vers les personnes qui nous attirent naturellement, alors qu'on est conscient d'être dans un attachement insécure, on peut au moins se dire attention, si je suis naturellement attiré vers elles, c'est peut-être qu'elles sont dans un profil qui va aller nourrir mon insécurité latente, quoi, présente.
Tout dépend, ça dépend vraiment de l'histoire de la personne. Hein. Donc, on peut pas généraliser.
Ouais.
Tout dépend de comment elle aura conscientisé ou pas les choses. Si elle est, voilà, comme tu dis, si on est conscient de ce qu'on a vécu et finalement, quelquelqu'un va, amicalement nous attirer. On verra par la suite comment le lien va se construire. Ouais. Et si on voit que ça ressemble à
à ce que je connais déjà beaucoup.
Voilà, ce qui est assez classique parce que voilà, on a quand même, là on parle du style d'attachement, mais par exemple le modèle parental, on va le reproduire aussi dans notre couple. Enfin voilà, c'est souvent ce qui va se répéter.
Ouais, ouais.
Mais heureusement, on peut en échapper aussi. Hein.
Alors de manière très concrète, j'aime bien sur Euro Présent, ceux qui sont habitués à nous suivre savent que je donne des exercices.
Ah oui.
Alors est-ce que dans ce cas-là, on pourrait prendre une phase, parce que j'aime beaucoup l'écrit, hein, il y en a beaucoup qui ont leur cahier de vie et je les félicite de l'avoir, dans lesquels ils prennent le temps chaque jour d'écrire leurs émotions, ce qu'ils pensent, etc. Est-ce que là, il y aurait un exercice où on pourrait se dire, tiens, vu mon mode d'attachement, je vais noter ceci, cela, et dans mes relations nouvelles ou mes relations existantes, je vais pouvoir identifier et commencer à me dire, je vais donner plus d'emphase à tel type de relation et dans le fil du temps, être attentif à ta, ça et ça, et moins d'emphase à une autre dans laquelle je vois que ces deux ou trois signaux sont déjà présents. Est-ce que tu vois un exercice qui pourrait être assez concret pour les auditeurs?
Alors juste de dire déjà que c'est important peut-être de travailler sur soi déjà, parce que plus on va être conscient de notre souffrance et de ce qui a fait souffrance, plus on va aussi travailler sur notre gestion émotionnelle, sur notre estime de nous-mêmes, sur la confiance qu'on peut avoir en nous. Tout ça va, plus on va se sécuriser par rapport à nous-mêmes, moins on va finalement reproduire dans nos relations extérieures, en tout cas dans nos relations, ce modèle, parce qu'on va être... on va pouvoir se sécuriser intérieurement pour pouvoir ne pas finalement rechercher à l'extérieur la sécurité. Parce que c'est ça le risque aussi. Parce que quand tu dis quel type de relation je peux rechercher pour finalement réparer. Alors bien sûr qu'on répare souvent avec les autres, oui. Mais c'est surtout la réparation intérieure qui est importante.
D'accord.
C'est pas l'inverse, c'est pas l'autre qui va réparer, et ça on le dit, que ce soit pour le couple ou pour toute relation. Et puis moi qui suis croyante, je peux dire que c'est vraiment la foi, par exemple, en cet inconditionnel amour que Dieu a pour moi, qui m'a réparée personnellement, moi, dans mon parcours. Et grâce à ça, je peux avoir des relations aussi plus saines, où je ne suis pas en attente
Une réparation. D'accord. Donc finalement, je vais créer des relations qui ne soient pas des relations pansement, parce que je vais me centrer sur moi pour aller apprendre à m'aimer et du coup revenir, me respecter, etc. Et finalement, mon estime de moi et mon amour pour moi va faire que je vais avoir une relation plus saine à l'avenir. Parce que cet amour que je me donne à moi me sécurise, c'est ce que tu es en train de dire en fait.
Ah ben oui, c'est surtout ça qui joue, parce que les autres peuvent nous décevoir, vont forcément nous décevoir à un moment donné.
Intéressant de le rappeler quand même. Hein.
On est tous imparfaits et surtout, on ne peut pas changer les autres.
Oui. Ça,
c'est ce qu'on dit en thérapie. Hein. On peut jamais, quand on apporte une situation, c'est toujours sur soi qu'on va travailler et on ne peut agir sur les autres. Je veux dire, bien sûr qu'en travaillant sur soi, il y a des choses qui bougent chez les autres parce qu'on bouge nous,
mais bien sûr.
Intérieurement. Et souvent, on se rend compte après, ça bouge, mais parce que nous, on a bougé intérieurement.
C'est ça.
Alors, les autres peuvent aussi bouger personnellement, en faisant un travail sur eux, Mais ça ne nous appartient pas.
Exactement.
Donc,
D'accord.
Alors concrètement, oui, l'écriture, ça marche très bien.
Ouais.
Alors, simplement de pouvoir, je dirais même, pas forcément par parler des autres, enfin, écrire sur les autres, entre guillemets, mais justement, partir de soi et de ce qu'on ressent. Par exemple, si on veut se demander, ben, est-ce que je suis bien dans la relation que je vis actuellement avec un tel, avec une telle? C'est peut-être plus ça. Et je pense que le signal, alors c'est peut-être pas concret pour toi, je ne sais pas. Pour moi, le signal, c'est la question de la souffrance
Si, si,
ou de
c'est très concret.
l'insécurité. Et si, alors la souffrance, c'est déjà le summum, mais même un sentiment d'insécurité, ça ne veut pas dire que la personne, justement, n'est pas quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. Ça peut être parce que nous, on est dans une forme qui est insécurisante et donc on n'arrive pas à profiter de la relation.
C'est ça. Donc ça,
C'est pas forcément
c'est
l'autre
aussi...
qui est un problème, hein.
Mais...
C'est, voilà, là on est, c'est un système, une relation, c'est à deux,
Ouais.
donc c'est, voilà, c'est plus nuancé, hein. C'est pas.
Tu es en train de dire que finalement, quand j'ai le sentiment de ne pas suffisamment, enfin de ne pas arriver à profiter d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, c'est un signe de souffrance, et deuxièmement, peut-être un signe pour me dire, ah, j'ai besoin de retravailler ma capacité à m'attacher.
En tout cas, ça
Ça
questionne
questionne.
sur qu'est-ce qui se passe
Qu'est-ce
en
qui se joue?
fait.
D'accord.
Est-ce que c'est l'autre qui a une forme de, voilà, de relation particulière qui m'insécurise, ou si je suis en train, moi, de, bah, de ressentir cette insécurité parce que ça, parce que c'est quelque chose qui est familier ou bah, qui finalement me questionne sur mon passé, sur voilà. Alors, c'est vrai que je dirais que au niveau thérapeutique, l'art, par exemple, tout ce qui concerne l'art peut être aussi très aidant. Alors, l'écriture fait partie donc
Ouais.
des,
Des arts,
voilà,
des
des
outils
arts,
et des
des outils.
arts.
Je ne sais pas, le théâtre, tout ce qui est psychocorporel peut aider
Ouais,
aussi
la
à pouvoir,
danse.
bah, s'exprimer, en tout cas exprimer quelque chose de notre vécu.
D'accord.
Après, je pense que l'écriture est intéressante parce que déjà, c'est comme en fait parler, sauf qu'en plus, il y a une trace.
Il y a une trace. Ouais.
Enfin,
Mais je trouve qu'en
parler,
plus...
c'est vrai que la trace, voilà, c'est la
Oui,
mémoire de l'autre qui nous a
c'est ça.
entendus ou de nous,
C'est ça. En plus, moi...
mais c'est plus tuant. Et soumis à une interprétation, tandis que l'écrit, ben, on peut le relire, on peut
Tout à fait.
revoir ce qu'on a
Ce qu'on a
ressenti à un
écrit.
moment donné.
Surtout que j'insiste
Voilà.
bien pour qu'on mette la date du jour. Ce qui permet, quelques semaines, quelques mois après, de se rendre compte du chemin qui a été parcouru quand on vient relire, dans, par exemple, pour ce cas présent, les figures d'attachement, qu'on a choisi de garder, de trier ou autre, hein. Ou l'estime de soi, l'amour de soi. Tu sais qu'il y a des détracteurs sur cette question de figures d'attachement qui disent que bon, sécure, insécure, c'est un petit peu trop compartimenté, trop manichéen.
Oui.
Comment tu vois les choses?
Après, de toute manière, dans mon métier, il y a beaucoup de théories différentes, hein. Je confronte la théorie surtout à la pratique et à ce que je rencontre, bah, avec les patients. Donc, quand quelque chose me parle, je l'utilise. Je pense que les théories sont des outils et ce n'est pas, c'est un outil qui est utilisé par un professionnel ou par une personne qui veut mieux se comprendre et se connaître. Ce n'est pas parole d'évangile, comme on dit. Mais en tout cas, je pense que la théorie de l'attachement est quand même assez juste. Après, elle n'explore pas tous les possibles parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui segmente en deux, trois, quatre parties. Ce qui n'est pas la réalité de toutes les personnes. Voilà. Comme quand on parle de pathologie, on dit la dépression. Bon, il y a des traits communs, mais chacun a une raison de vivre la dépression parce qu'il a une histoire personnelle. Donc, je dirais que, quelle que soit la théorie, c'est toujours à individualiser, à personnaliser, parce qu'on n'est jamais comme l'autre, quoi. Donc,
D'accord.
on n'a pas le. on n'a jamais le même parcours, on n'a jamais le même ADN, enfin, tout, voilà. Ouais. C'est vrai que moi, je suis une psychologue clinicienne et je m'attache vraiment à l'individu. C'est pour ça que c'est vrai que parler de manière générale, je ne suis pas forcément à l'aise, parce que c'est toujours une question individuelle. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent nous guider dans la compréhension.
C'est à considérer comme une aide de lecture, mais pas comme un cadre d'enfermement, finalement.
C'est une piste. Après, c'est un outil. Et justement, c'est comment on l'utilise qui va dire est-ce qu'on est dans, on s'enferme dans quelque chose ou on est plus dans une ouverture, parce que c'est une forme de lecture de mon histoire personnelle. Et peut-être qu'il y en aura plusieurs de lectures. Ça, c'en est une. Voilà.
Quand j'ai pris conscience de ces éléments-là, quelle peut être l'étape suivante, toujours dans une autothérapie, dans un travail sur moi-même personnel?
Alors, moi, c'est vrai que je pense qu'il y a une part qu'on peut faire seul. Mais à un moment donné, je pense que pour avancer, on a besoin aussi d'un autre. Et c'est pour ça que la thérapie peut aider, parce qu'on est aussi entendu, il y a une forme de miroir où l'autre va nous renvoyer des choses. Et il ne faut pas oublier qu'on a une part inconsciente, donc on a une part de nous qui nous échappe nous-mêmes. Ouais. Et c'est plutôt parfois l'autre qui va nous renvoyer des choses que nous-mêmes on n'avait pas perçues, ou en s'adressant à un autre, on va aussi peut-être sortir des paroles ou avoir des images ou des représentations qu'on n'aurait pas eues seules.
D'accord. Je prends souvent...
C'est le but de la rencontre avec
le thérapeute.
Avec la thérapie.
Ouais, hein, ouais. J'utilise, moi, cette image du miroir en disant, pour expliquer aux gens qui veulent uniquement travailler en autothérapie, que quand ils sont devant leur miroir, donc on va simuler... Moi, je suis devant mon miroir, je fais de l'autothérapie. Quand je lève la main droite dans le miroir, c'est la main gauche qui se lève. Alors que quand je suis devant un thérapeute, quand je lève la main droite, il voit que je lève ma main droite. Et par conséquent, effectivement, il y a une part de travail que je peux faire seul devant mon miroir, mais j'ai besoin d'avoir conscience qu'il y a une part du travail que je ne pourrai jamais faire seul, parce qu'effectivement, il y a une limite à être face à mon miroir si mon miroir est passif, comme quand je suis devant ma feuille de cahier ou devant mon expression. Donc oui, pourtant, je suis en train de... Je valorise le développement personnel avec le blogueur au présent, et j'accompagne les gens en disant « travailler seul ». Mais je trouve que c'est une opportunité pour dire « j'ai besoin d'avoir conscience qu'il y a un moment où j'ai besoin de travailler avec un autre ». Donc je te rejoins à 100% pour dire « oui, il y a un moment où quand j'ai pris conscience qu'il y a ci et ça, et ça, et ça, et ça, j'ai fait un travail génial qui va me permettre d'avancer et peut-être de gagner du temps et de l'efficacité d'avec le thérapeute, mais que ça n'économise pas forcément l'accompagnement thérapeutique avec un professionnel qui sera un tiers médian, un vis-à-vis neutre, et qui sera un vrai miroir et pas un miroir mensonger comme mon miroir seul.
Et de toute manière, ça va avec la construction de l'humain, c'est-à-dire qu'on ne naît pas seul.
Ouais.
Et Winnicott encore qui disait... Le bébé n'existe pas seul.
Exactement, seul, j'ai noté ça.
Pas. Tout à fait. On se construit tout au long de notre vie avec l'autre.
Ouais, ouais.
Ça me fait penser au film Seul au monde,
oui, oui.
Avec Tom Hanks, ouais, où il va se créer un vis-à-vis.
Tout à fait.
Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, on n'est pas fait pour grandir seul. Donc, et c'est faux de penser qu'on est complètement indépendant à un moment donné. On est toujours interdépendants les uns des autres. Après, il y a dépendance et dépendance, mais voilà, l'autre va nous apporter justement parce qu'on se complète, parce qu'on n'est pas tout, on n'est pas tout. On est manquant. Et c'est pour ça qu'on peut se rencontrer.
Mais c'est aussi intéressant de rajouter que quand j'ai appris à m'aimer et à vivre heureux, je vais être le manquant de l'autre finalement. Je vais participer aussi au bonheur, à la création et à l'équilibre, et éventuellement être port d'attachement pour un autre.
C'est une co-construction à chaque fois dans la relation. On est deux, on n'est pas et on est des êtres de relation. Donc voilà. Et ce qui est important, c'est vraiment de se dire aussi que parce que moi je serai sécurisée, je pourrai apporter. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est important d'être bien avec soi-même. Et ça va nourrir l'autre, justement. Et ce n'est pas parce qu'on va faire tout pour l'autre avant soi que ça va être mieux, au contraire.
Ou que c'est beau d'entendre ça.
Parce qu'on va le polluer avec notre propre insécurité.
Tout à fait. Excellent, je te remercie beaucoup, Leslie. Est-ce qu'avant de se quitter, tu voudrais bien nous proposer des pistes pour élargir la réflexion, creuser, travailler des livres? Je pensais au livre de Winnicott, Les bébés et leur mère, mais il a un petit problème, c'est que à cette époque-là, évidemment, dans les années 70, on était centré sur la mère et l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit au début, on s'ouvre et on s'est rendu compte que le rôle du père est beaucoup plus important, même si Winnicott ne le chasse pas, évidemment. Mais le titre peut faire qu'on se dise, bah, non, si c'est pour la mère, en tant que père, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce qu'il y a des livres, des références, des vidéos peut-être que tu proposes qui peuvent creuser ce sujet de l'attachement et nous enrichir?
Alors, il y a Nicole Guédenet dont je parlais tout à l'heure. C'est une dame qui parle de manière assez vulgarisée de l'attachement. Donc, Guédenet, je pourrais te donner une petite liste.
Alors, je veux bien les liens, comme ça, je les mettrai en bas de la vidéo et sur le blog voilà. Pour que les gens puissent...
Après, selon ce que la personne, en fait, va rechercher. Oui. Donc, il y a aussi Boris Cyrulnik hein, qui parle beaucoup de l'attachement dans ses ouvrages. Mmh. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Sous le signe du lien » de Boris Cyrulnik.
Je mettrai les liens au bas du blog, comme ça, ceux qui sont intéressés pourront aller plus loin. Le livre de Ivan Viard, qui s'intitule « L'attachement, un instinct oublié », j'ai lu quelques extraits. Je ne sais pas si tu le connais, tu le recommandes. Je le mettrai aussi en lien, voilà, tant pis.
Je ne le connais pas, mais bon, voilà.
Ouais, elle est psychologue et chercheur au laboratoire clinique de Paris à Descartes.
Très bien.
Donc c'est aussi très intéressant. Voilà.
Il y a, je trouve, ces livres aussi de Jacques Salomé, « Compte à guérir, compte à grandir ».
Oui, excellent, effectivement.
Alors, ce sont des livres, et puis il y a « Compte à aimer, compte à s'aimer » aussi. Ouais. Je trouve que c'est intéressant, ben, c'est sous la forme métaphorique, hein, avec des petits contes comme ça qui peuvent aussi aider à une forme de compréhension et de guérison intérieure. Voilà.
Alors, même s'il y a des sources que tu n'as pas présentées ici et qui te viennent à l'esprit, je les prendrai, je les mettrai pour que tous ceux qui écoutent et qui lisent ces rendez-vous puissent en profiter. Je te remercie beaucoup, 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 Leslie. Évidemment, je me réjouis de te retrouver... dans quelques semaines pour d'autres sujets. On évoquera ensemble certains sujets. S'il y a des questions qui viennent des auditeurs ou des personnes qui sont là à ces rendez-vous, bien, je t'en partagerai aussi quelques-uns. Et puis, je te souhaite bon vent et continue à faire autant de bien à ceux que tu accompagnes, parce que c'est génial d'avoir des psychologues cliniciens avec cette approche aussi pragmatique.
Eh ben, merci de l'invitation, Pascal. Et puis, à bientôt alors, pour d'autres sujets.
À bientôt, au revoir.